On connaît bien le terme plus ou moins heureux de question juive, forgé au XIXe siècle par Bruno Bauer et Karl Marx, et repris ensuite par Sartre. Mais n'y aurait-il pas aussi une question séfarade, avec des retombées historiques, sociales et géopolitiques? C'est ce que nous démontre brillamment le journaliste Daniel Bensoussan Bernstein dans son récent essai publié chez L'Artilleur et intitulé « La question séfarade » avec pour sous-titre « De la Dima à la colonisation, une mémoire qui dérange ». Daniel Bensoussan Bernstein, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
Alors, revenons un temps, si vous le voulez bien, sur votre sous-titre, la première partie du sous-titre, « De la Dima à la colonisation ». La Dima, c'est quoi et elle repose sur quoi?
La Dima, c'est le statut qui est imposé à ce que l'islam appelle les peuples du livre, Ahl al-Kitab, c'est-à-dire juifs et chrétiens, mais aussi zoroastriens. Enfin, essentiellement, essentiellement, il y a surtout un accord sur les juifs et les chrétiens,
oui.
Qui sont détenteurs d'un livre reconnu par le Coran, quoique l'islam les accuse par ailleurs d'avoir falsifié leurs écritures,
oui.
Mais enfin, qui ont reconnu un certain nombre de prophètes, à l'exception de Mohammed, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. À ce titre, l'islam leur doit protection. Et le fait de ne pas avoir reconnu la véritable religion, l'islam, les place dans une situation d'infériorité. Donc la Dima, c'est un ensemble de lois. Bon, ça s'est mis en place progressivement. D'abord, ça s'est mis en place progressivement sur plusieurs siècles. Et puis, elle varie, son application varie d'abord selon les écoles de l'islam.
Oui.
Et selon le contexte.
Selon le contexte, vous dites que, par exemple, a été atténué par la conquête ottomane, mais pas au Yémen.
Le Yémen ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, comme le Maroc. Le Maroc n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman.
D'accord.
Donc c'est un certain nombre de lois qui visent à montrer le caractère inégalitaire d'une inégalité de facto et de fait. Juridiquement, je veux dire, entre musulmans et non-musulmans, par un certain nombre d'interdits. Voilà ce qu'on peut dire de façon très, très… Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que sur le plan historique, il y a deux choses à rappeler. La Dima n'a jamais empêché des Juifs d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État musulman et de se retrouver dans des situations à commander des musulmans, ce qui, sur un plan religieux, sur un plan théologique, a pu susciter le scandale d'un certain nombre de théologiens, des oulémas, c'est-à-dire en quelque sorte des savants, des gardiens, des gardiens de l'orthodoxie islamique. C'est quelque chose d'assez récurrent dans l'histoire juive. Un des exemples les plus célèbres, c'est Joseph Nagrela, fils de Samuel Nagrela, donc au Xe siècle, dans l'Andalousie du Xe siècle, donc sous les Omeyyades. Il est natif de Cordoue et il est comme son père, il se retrouve aux plus hautes fonctions de l'État. Et pour cette raison, il suscite le courroux d'Ibn Hazm, qui est un très grand théologien, qui fait partie d'une école qui est la plus courte aujourd'hui, qui est l'école zaïrite, qui est l'école textualiste, mais qui est un théologien qui, par son œuvre, reste aujourd'hui un personnage tout à fait central. Et Ibn Hazm développe toute une polémique anti-juive à partir du cas de Nagrela. Finalement, cet homme devrait être indigné, il ne respecte pas les lois qui lui sont assignées. C'est une campagne judéophobe extrêmement violente et qui va influencer une partie des musulmans qui, en 1066, c'est-à-dire quand même deux ans après la mort de Ibn Hazm, vont procéder à un massacre des juifs à Grenade. Vous le retrouvez à Fès avec Haroun Battash en 1465, vous le retrouvez avec Naftali Bousnard en 1805, c'est récurrent.
C'est récurrent. Et vous montrez ensuite qu'après la décolonisation, avec l'émergence des États-nations musulmans, le naturel de la Dima revient, pour ainsi dire, au galop. C'est-à-dire qu'on ne supporterait pas qu'il y ait une citoyenneté des Juifs à l'égal de la citoyenneté des musulmans.
Alors les choses sont plus complexes. D'abord parce qu'au moment de aucun État, au moment de la décolonisation, de l'indépendance, c'est important de le dire, aucun État arabe et musulman n'a rétabli la Dima. La Dima a été abolie dans le courant du XIXe siècle essentiellement, à la faveur, on peut dire de façon très générale, de la rencontre avec l'Occident, qui s'est faite par le truchement des Tanzimats. Les Tanzimats, ce sont les grandes réformes ottomanes, 1839-1856. Et là, vous avez l'influence très nette de la Révolution française sur les élites ottomanes. Je cite un moment dans le livre Mahmoud II, le sultan Mahmoud II, qui dit je veux connaître les juifs à la synagogue, les chrétiens à l'église, les musulmans à la mosquée, mais dans l'espace public, ce sont tous mes sujets, ils sont tous des citoyens. Et puis, c'est aussi la colonisation en Algérie en 1830, au Maroc en 1912, qui abolit la Dima. Mais au moment de l'indépendance, aucun État musulman ne remet en vigueur la Dima. En revanche, il y a une peur qui s'exprime, c'est autre chose, chez un grand nombre de juifs, de se retrouver dans une situation inégalitaire. Il y a une sorte de une angoisse. Et cette angoisse-là, on la retrouve bien en amont de l'indépendance, dans une correspondance en Tunisie entre Gaston Smadja, qui est un journaliste juif de sensibilité socialiste, et Salah Arfarat, qui est un des fondateurs du Parti nationaliste d'Estour. Mmh. Et Gaston Smadja, dans ses lettres, lui fait part de ses craintes à l'endroit de la perspective d'une indépendance future. Il lui dit, mais dans cet État, dans l'État que vous voulez, indépendant, un État musulman, vous ne distinguez pas le religieux vous n'êtes pas dans la sécularisation. Mm-hmm. Et nous, par conséquent, qui ne sommes pas musulmans, quelle sera notre place? Il y a cette
inquiétude.
Absolument.
Qui est fondée.
Elle est fondée. Elle est fondée parce qu'il y a tout un passé historique, mais il ne faudrait pas penser pour autant que, comme j'ai pu parfois le lire, que les Juifs sont partis parce qu'en restant, ils redevenaient des 10 000. Les choses sont nettement plus complexes. Il y a la montée du nationalisme, mais effectivement, ce passé-là pèse. Il a toute son importance, ce qui ne veut pas dire que pour autant, il est rétabli. Mais il marque une insécurité pour un grand nombre de Juifs.
Une insécurité que certains épisodes historiques montrent. Hein. Par exemple, vous citez page 147, une lettre de Foucault à Georges Ganguilhem, Foucault enseigné à la fac de Tunis, qui raconte le pogrom de Tunis en juin 67. Et Foucault dit « ce fut bien plus grave que l'a dit Le Monde ». Et il souligne, Foucault, la coopération des étudiants par gauchisme. Donc on voit bien quand même qu'il y a une espèce de retour du refoulé.
Il y a un retour du refoulé à la faveur du conflit israélo-palestinien. Mmh. Comme si finalement le conflit israélo-palestinien venait gommer les siècles finalement du passé judéo-musulman. C'est-à-dire que tout est... Je cite un moment, ça je ne la cite pas, mais c'est je trouvais assez intéressant sur le déni qui entoure cette condition juive en pays musulman. En 2000, au Maroc, Nadia Yassine, qui est la fille d'Abd Salam Yassine, qui est mort aujourd'hui, qui était le fondateur du mouvement Adwa l'Irsan, Justice et Bienfaisance, qui est toujours le mouvement islamiste le plus important au Maroc, et qui était un anti-juif féroce. Et en 99, au moment de la mort d'Hassan II, il a publié un texte en français. Il écrivait essentiellement en arabe, mais cette fois, il l'a écrit en français. « Mémorandum acquis de droit ». Où il s'adresse au nouveau souverain Mohamed VI. Et c'est un texte très nettement anti-juif, où il dit...
extrêmement violent.
Voilà, où il dit qu'Hassan II a fait du Maroc une judéocratie, qu'il a tout fait pour plaire et complaire, dit-il, à la gente cosmopolite. C'est comme ça qu'il parle des juifs. Et donc, en 2000, Jean-Pierre Tucoy, qui est à l'époque un journaliste, je crois au Monde, il organise c'est au Monde, dans le cadre du journal Le Monde, il organise une rencontre avec les lecteurs du Monde au Maroc, et un face-à-face entre Nadia Yassine et ses lecteurs. Et on l'interroge sur le caractère violemment anti-juif du texte de son père, et en réalité de tout le mouvement et de bien d'autres textes. Et elle a pour réponse, nous avons une histoire, nous n'avons pas les camps de concentration sur la conscience, nous avons une histoire faite d'harmonie entre juifs et musulmans. La judéophobie, ça n'existe pas chez nous, il n'y a jamais eu de problème. Donc elle occulte ne serait-ce que la biographie, la sira du prophète Mohammed, et tous les épisodes de combat contre les juifs. Ça lui permet finalement de donner une vision enjolivée, qu'il absout de s'interroger sur la propre judéophobie des siens, son mouvement en l'occurrence.
C'est ça. Et c'est pourquoi finalement la seconde partie du sous-titre, c'est, je cite, une mémoire qui dérange. Donc cette mémoire des souffrances endurées tout de même par le statut de Dhimmi des Séfarades, elle est minorée, elle est passée sous silence, Donc, vous venez de parler de cet épisode, mais pas seulement par les historiens des pays arabes. Elle est passée sous silence par qui, en général, et pourquoi ?
Il y a un enjeu très important, c'est l'enjeu israélien. Pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, d'abord parce que ce n'est pas mon sujet, la tendance de fond au sein du mouvement de soutien à la Palestine tend aujourd'hui à une remise en question de l'existence même d'un État juif, c'est-à-dire non pas deux États côte à côte, qui, tant du côté israélien que du côté, côté palestinien, est un credo, une vision politique qui tend à devenir de plus en plus marginale. Oui. Donc la tendance de fond, c'est plus d'État juif du tout. Et on le voit par exemple avec le succès d'une Rima Hassan. En revanche, aujourd'hui, à l'ère de l'antiracisme, entre guillemets, généralisé, il est impossible de prôner la fin de cet État juif avec le discours d'Ahmed Choukeri, premier leader de l'OLP d'avant 67, c'est-à-dire il est impossible de dire on va mettre les juifs à la mer, on va tous les passer au fil de l'épée. Ça ne tient pas, ce n'est pas possible.
Enfin, c'est possible de le dire en arabe, mais...
Pas en français, en tous les cas. Pas à l'endroit du public occidental. Et le discours qui domine aujourd'hui, c'est un État unique. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte politique, il est extrêmement important, capital, de maîtriser, d'avoir la maîtrise de ce passé, du récit que l'on entend donner de ce passé. Si vous arrivez à faire passer l'idée, à convaincre votre auditoire que les relations judéo-musulmanes, fondamentalement, sont une histoire d'harmonie et que les juifs vivaient bien à l'ombre de l'islam. C'est ce que dit d'ailleurs un article de la charte du Hamas, l'article 31 de la charte de 88. Cet article dispose, je le cite en traduction française, « À l'ombre de l'islam, les disciples des trois religions peuvent cohabiter en paix et toute l'histoire est là pour le démontrer. Bon. » Si vous arrivez à faire passer cette idée et par contre-coup, vous avancez l'idée que cette harmonie a pris fin avec le sionisme, vous avez un contre-modèle historique à proposer. Et c'est-à-dire, vous pouvez dire aux Juifs, mais il est tout à fait absurde de continuer à vous accrocher à cet État, car c'est cet État, en réalité, qui vous met en insécurité. Et vous dites, et c'est là que c'est très important, c'est là où il y a un décalage entre l'Israël d'aujourd'hui, qui est extrêmement travaillé par sa démographie, par la mémoire du judaïsme oriental, et le discours qui a cours en Occident. Le discours qui a cours en Occident encore aujourd'hui, c'est de dire... C'est un État qui a été donné aux Juifs, en quelque sorte, en compensation de l'antisémitisme en Europe. Et justement, avec ce discours-là sur l'harmonie en terre musulmane, c'est un discours qui passe très bien. C'est-à-dire, mais très bien, c'est un État qui devait être fondé pour compenser l'antisémitisme en Europe. Mais justement, pourquoi avez-vous fondé cet État ici ? Si c'était par rapport à l'Europe, une dette de l'Europe, il fallait fonder cet État en Europe. Et nous avons, nous, un contre-modèle historique à vous proposer. Où vous serez bien. Vous n'avez pas besoin d'une souveraineté, vous n'avez pas besoin d'un État juif. Ça, c'est une problématique. Ce que ça sous-entend, c'est l'antisémitisme est une problématique exclusivement européenne. Oui, pas dans l'islam. L'islam, il n'y a pas de judéophobie.
C'est le discours d'Ouria Boutelja.
Tout à fait.
C'est le discours du BDS.
Oui.
Et c'est le discours de Soral. C'est ça que vous montrez. Parce qu'en fait, dans votre livre, vous laissez place, vous développez les discours. C'est ce qui est remarquable dans ce que vous faites. Vous donnez la parole à tout un chacun.
Ce qui m'a frappé, effectivement, c'est qu'on... Alors, Soral, c'est un des discours de Soral, puisque Soral est un publiciste, si je puis dire, assez doué dans son genre, en matière de marchand d'antisémitisme. Mais c'est un des discours qu'il tient. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a édité un auteur, à un moment donné, qu'il a énormément mis en avant et qui a énormément été mis en avant dans les milieux antisionistes, c'est Jacob Cohen. On a avancé, c'était le juif antisioniste qui avait écrit Le printemps des Sayanim. Et depuis, c'est cette expression de Sayanim.
Sayanim.
Ce qui veut dire des gens qui travaillent ou qui travailleraient pour le Mossad et qui seraient recrutés dans les communautés juives. Mais son livre ne donne aucun chiffre. Enfin, il a été...
C'est le fantasme,
peut-être à partir d'une réalité tout à fait objective, on peut fabriquer des fantasmes. Ça ne veut pas dire que le fantasme ne s'appuie sur rien, mais ce sont deux choses différentes. Bon. Et il a édité ensuite chez Contre-Culture. C'était un auteur qui n'a pas commencé à écrire, qui a écrit bien avant. Il n'a pas commencé à écrire avec Soral, mais il a commencé à se faire connaître. C'est un juif d'origine marocaine, antisioniste, violemment antisioniste. Et lorsque Soral, régulièrement, il faisait ses interviews et pour mettre en avant ses livres de sa maison d'édition, il s'était lancé dans tout un discours pour dire textuellement les Juifs vivaient parfaitement en harmonie avec les musulmans et ils ont été déportés, disait-il, par les sionistes ashkénazes qui étaient venus les chercher et qui en avaient fait des esclaves au service de la caste des sionistes blancs ashkénazes dans l'État d'Israël. Et c'est lorsqu'il, dit-il, il s'était retrouvé dans l'État d'Israël qu'ils s'étaient aperçus qu'en réalité, ils avaient toujours été des berbères et qu'ils vivaient parfaitement en harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ça à propos de Jacob Cohen. Et là, c'est un désinformateur. Vous me direz, ce n'est pas une surprise compte tenu de l'intéressé. Moi, Jacob Cohen, il se trouve que j'ai lu ses deux premiers livres, qui s'intitule qu'il a publié chez des éditeurs marocains, en français, « Les noces du commissaire et du danger de monter sur la terrasse ». Et jamais Jacob Cohen, c'est même tout à fait le contraire, qu'il soit antisioniste, c'est une chose, mais jamais il n'a fait l'éloge d'une quelconque harmonie judéo-musulmane. Et on a un jour interrogé Jacob Cohen, et il dit, mais les Marocains me demandent toujours, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Et il dit, mais ils font semblant de ne pas comprendre. Et il dit, moi, j'étais totalement antisioniste, mais les campagnes de l'Istiklal, l'Istiklal, c'est le plus grand parti nationaliste au Maroc, fait de boycott des commerçants juifs et tout, nous ont poussé au départ. Et mon père, qui n'était pas du tout sioniste, finalement, est parti dans l'État d'Israël. Mmh. Et un de ses premiers romans, donc, du danger de monter sur la terrasse, c'est l'histoire d'une jeune fille, Esther Ohana, à qui on explique qu'il disparaît un jour, et c'est dans un contexte bien précis, lorsqu'il y a eu des enlèvements de certaines jeunes filles qui ont été converties de force à l'islam, et ce dont l'Istiklal, ce parti nationaliste, dirigé par Alal Fassi, s'était vanté. Alors évidemment, le roi avait une politique tout à fait différente. Le roi, pour lui, les Juifs étaient des Marocains au même titre que les autres. Ça a toujours été très clair.
Oui, mais dans la population...
Mais l'Istiklal, qui avait, au niveau des villes, parce que dans les campagnes, c'était encore autre chose, mais dans les villes, avait un poids considérable, l'Istiklal a poussé un grand nombre de Juifs au départ, par ses campagnes. Et notamment, c'est ça qui est important, des Juifs qui n'étaient pas sionistes, qui voulaient rester.
Donc finalement, ce que vous dites tout de même, c'est que ce qui a fait partir ces Juifs des pays arabes, ce n'est pas tant l'attrait d'Israël que l'attitude d'une certaine partie de la population et l'attitude des nationalismes vis-à-vis d'eux, tout de même.
Ça dépend des... Les Juifs du monde arabe ne sont pas un bloc homogène.
Pas un bloc homogène, d'accord. Voilà, au Maroc, c'est ce que vous dites, tout de même.
Au Maroc, tout dépend s'ils étaient sionistes ou pas. Lorsque vous voyez, par exemple, le film de... David Assouline sur sa famille à Sefrou entre paradis perdu et terre promise, il interviewe son père qui est un homme de gauche et qui raconte il n'a jamais été en Israël. Certains membres de sa famille sont partis en Israël parce que pour eux c'était un de ses ongles, tous les ongles on disait l'an prochain à Jérusalem, et son propre père Abner Assouline, il l'interroge et il dit
«
Moi, j'ai travaillé, j'étais membre de l'UMT, l'Union marocaine du travail, et un jour, il raconte qu'est-ce qui m'a fait partir, c'est qu'un jour, dans un des journaux de l'UMT, de mon propre syndicat, il y avait un article qui pointait du doigt et parlait d'un nid de vipères sionistes dans l'administration, et il y avait mon nom dedans, et là, il dit « j'ai été écœuré ». Donc, il n'y a pas eu un ordre d'expulsion, mais des gens comme ça ont été de facto poussés au départ.
Par exemple, moi, ce qui m'a incité à quitter le Maroc, c'est un article dans un journal progressiste qui était le journal de l'UMT, c'est-à-dire, comme tu disais, la CGT en France. L'UMT, c'est l'Union marocaine du travail à laquelle j'adhérais, moi. J'étais militant de l'UMT. Eh bien, dans ce journal, on a dit dans un article un jour qu'il y avait un nid de serpents sionistes dans l'administration des PTT. Et on a cité des noms, et il y avait mon nom là-bas. Alors que moi, je n'ai jamais été sioniste, Et parmi tous les gens qui ont été cités, ils n'ont jamais eu aucune activité sioniste. C'était simplement pour dire qu'il y avait des juifs dans l'administration, les montrer du doigt. Alors ça m'avait écœuré. Et j'ai décidé, à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte le Maroc.
Ça revient de façon quand même régulière et dans pas mal de pays du Maghreb et du Maghreb quand même. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre sur la situation en Israël. Vous montrez dans votre livre comment ce refus de penser le passé douloureux des séfarades, tout de même, explique en grande partie les affrontements politiques contemporains en Israël.
Non, je ne dirais pas les choses, je ne présenterai pas les choses comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on assiste depuis ces 20-30 dernières années, au contraire, en Israël, on a une reconnaissance de cette histoire. Alors, c'est important, vous avez dit les séfarades en Israël, on ne parle pas de séfarades.
On parle de Mizrahim.
Des Mizrahim, ce qui est aussi une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on parle de séfarades pour les mêmes populations du Maghreb, tout ça
Les orientaux.
Voilà, on parle des orientaux en Israël, on parle des séfarades en France, qui est aussi une façon de les... De parler de séfarades, c'est une façon de les rattacher à l'Europe par le truchement de l'Espagne.
Oui, oui.
Et ça renvoie aussi à une histoire, l'histoire de la décolonisation pour les juifs qui, originaires du Maghreb, qu'on appelle séfarades en France. En Israël, on parle de ça, c'est le discours orientaliste des années 50 qui a amalgamé un juif turc, un juif iranien, tous Mizrahim. Ça renvoie, le terme même de Mizrahim renvoie à une histoire spécifiquement israélienne. Et depuis, je vous dis, ces 20 dernières années, il y a, on peut dire, dès la dernière mouture, avec la dernière mouture des accords de Camp David, alors qui n'ont pas abouti, parce qu'on sait que ça au contraire le début de la seconde intifada, mais dans cette dernière mouture, les Israéliens d'origine orientale se voient reconnaître comme réfugiés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une demande sociétale importante, je parle de la Vojac, mais de toute une nébuleuse d'associations qui se sont battues pour faire reconnaître l'exil, l'exode des Juifs des pays arabes en Israël. Et à un moment donné, l'État d'Israël a eu besoin d'utiliser cette histoire, d'aucun dirait instrumentaliser, dans un contexte politique très précis. Nous sommes dans les accords d'Oslo et revient en permanence sur la table la question des réfugiés ou des descendants de réfugiés palestiniens de la Nakba. Et Israël, à ce moment-là, a besoin aussi de faire contrepoids, d'où l'utilisation de cette histoire à ce moment-là, par les autorités politiques israéliennes. Et d'où le fait que dans la dernière mouture des accords de Camp David, ils sont reconnus, ces Israéliens originaires des pays arabes et musulmans, sont reconnus comme réfugiés. Et ce mouvement va s'accélérer, ne va jamais s'arrêter. En 2014, il y a une loi qui est adoptée par la Knesset à l'initiative de Shimon Ohayon, qui est un député du parti Israël Beiteinu, qui reconnaît l'histoire et l'exil de ces communautés juives. Et c'est un sujet qui revient maintenant même régulièrement dans les instances internationales. En 2019, Gila Gamliel a parlé de faire une recension des biens juifs spoliés au moment du départ.
D'accord.
Dany Danon et Gilad Erdan à l'Assemblée de l'ONU ont demandé à ce que ces juifs-là soient aussi reconnus comme réfugiés. Et dans le discours israélien, on voit apparaître de plus en plus le thème de la Nakba, entre guillemets, des juifs d'Orient. La formule n'est pas de moi, elle est de Ben Dror Yemini, qui est un journaliste très célèbre en Israël du journal Yediot Acharonot. Et cette reconnaissance s'accompagne aussi ce que j'appelle un renouvellement de la doxa sioniste. C'est-à-dire qu'autant en Europe, on a un discours qui présente l'État d'Israël exclusivement comme une histoire européenne. Mm-hmm. En quelque sorte, on aurait créé l'État d'Israël par compensation, j'aime pas ce mot, vis-à-vis, au regard du génocide pendant la Seconde Guerre mondiale et des pogroms en Europe. Et vous avez un discours essentiellement israélien qui a assez peu passé les frontières. C'est le discours d'Ophir Toboul, par exemple, du mouvement Tor Hazav. C'est le discours de Chen Mazig, qui est un influenceur très connu, qui dit « Nous sommes des autochtones, nous avons toujours été des autochtones, nous ne sommes pas une excroissance, nous ne sommes pas l'Europe au Moyen-Orient, nous sommes des natifs au même titre que nos voisins musulmans. Mm-hmm. Simplement avant, c'est ce que dit Chen Mazig, par exemple, nous étions des dhimmi, et aujourd'hui, nous sommes toujours chez nous, dans notre espace naturel, mais nous sommes souverains.
Et est-ce que ce discours est porté aussi par les Ashkénazes, par les Juifs Ashkénazes en Israël?
C'est un discours, vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup, que je cite, Matti Friedman, qui est un journaliste d'origine américaine. Et c'est très intéressant parce que ça ouvre une autre question, la question de l'identité et des racines. Est-ce que nous sommes, moi, ce que je pense, nous ne sommes pas simplement la somme de nos racines. Pour moi, c'est aussi une problématique qui, pour moi, est très importante. Il dit, mais les Ashkénazes en Israël deviennent de plus en plus Mizrahim. Et c'est très juste. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'histoire de tout le monde. Ce n'est pas simplement une question d'origine Ashkénaze, séfarade ou Ashkénaze Mizrahi. C'est l'histoire de tous les Israéliens. Et pour ceux qui connaissent un peu Israël, évidemment qu'il y a un brassage tout à fait fondamental.
Oui, chez les jeunes, ça se voit vraiment.
C'est fondamental et le pays, le coup, est très... Je dirais que, vous savez, c'est ce qui est très difficile à comprendre vu d'ici et surtout vu d'un Occident qui est travaillé par les théories décoloniales, c'est qu'il y a un double phénomène depuis 1977, c'est-à-dire l'élection de Menachem Begin. C'est une droitisation politique et une orientalisation culturelle qui sont concomitantes. Et ça... Orientalisation culturelle, droitisation politique, vu par exemple des post-colonial studies aux États-Unis, ça ne passe pas toujours. Il y a contradiction. C'est-à-dire que le discours, les sionistes blancs, etc., là, il y a un hiatus, il y a quelque chose, il y a une mécompréhension.
Justement, j'aimerais bien qu'on parle des États-Unis. C'est-à-dire que, vu des États-Unis, comment est analysée la situation en Israël? Est-ce que vous pouvez développer ça?
Alors, je n'ai pas fait un livre sur les États-Unis, mais il y a effectivement je pense qu'il y a un lien extrêmement fort, et on va le voir avec l'élection de probable. On ne sait pas encore, d'ici quelques jours, Zohran Mamdani, qui, selon toutes les études disponibles, apparaît quand même comme un candidat qui recueillerait près de 38, entre 38 et 40 % des voix des électeurs juifs new-yorkais.
Comment vous l'expliquez, ça ?
Il y a des raisons d'abord qui sont internes aux États-Unis. Il y a une multitude de facteurs. Moi, je ne vais pas essayer de faire une analyse globale de pourquoi les juifs... à New York spécifiquement, mais il y a aussi la question de la vie chère, donc je ne vais pas non plus rentrer dans ce sujet. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que des gens qui sont à gauche, qui soutiennent Israël, qui sont des sionistes de gauche, je pense à Jerry Nadler, par exemple, élu à Manhattan, je pense à Brad Lander, qui se disent sionistes de gauche, soutiennent Zohran Mamdani. Et ils soutiennent Zohran Mamdani. Le cas le plus intéressant, c'est Jerry Nadler. Jerry Nadler soutient Zohran Mamdani, mais de l'autre, il est monté au créneau contre Marjorie Taylor Greene, de l'extrême droite du parti républicain, et qui proposait de cesser tout financement américain pour Israël de façon générale et pour le Dôme de Fer en particulier. Et Jerry Nadler s'est opposé à ça. En expliquant qu'on ne pouvait pas mettre en péril la survie même de l'État juif. Mm-hmm. Et donc, il a contré à la Chambre, il a contré Marjorie Taylor Greene. Et je me dis, le même soutient Zohran Mamdani, et visiblement, il n'intègre pas le fait que si Zohran Mamdani devient le nouveau visage du Parti démocrate demain, ce qu'il combat dans l'extrême extrémiste, la plus à droite du Parti républicain, il le retrouvera au sein du Parti démocrate. Et là, c'est là où ça m'a amené j'ai pu faire un lien avec ma réflexion, c'est comme si tout se passe, comme s'il y avait une impossibilité à entendre la possibilité d'une judéophobie hors de l'Europe, hors de l'Occident, hors de la sphère chrétienne. C'est-à-dire que la judéophobie, ce qui peut menacer les juifs, ça ne peut venir que de l'Europe, que de l'homme blanc et chrétien. Et ça, on le retrouve, c'est assez...
Dans tout l'Occident, finalement.
C'est un discours qu'on retrouve énormément, je trouve, dans la gauche juive américaine. Je voyais, par exemple, dernièrement, dans le combat, le principal challenger de Mamdani, c'est Andrew Cuomo, qui est un démocrate aussi. Voilà. Et Andrew Cuomo a ironisé sur Mamdani en disant « c'est le sauveur du peuple juif ». Donc ça fait un petit scandale. Et G Street, qui est la plus grosse organisation juive de gauche qui représente, on va dire, un sionisme de gauche. Et c'est récrié et a publié un communiqué pour dire que c'était scandaleux d'ironiser sur un musulman en laissant entendre qu'il pouvait être un terroriste ou qu'il pouvait être anti-juif, car c'était de nature d'abord, je les cite, à nourrir l'islamophobie et à diviser deux minorités, juifs et musulmans. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une impossibilité, on ne peut pas entendre qu'un musulman ou présumé musulman puisse aussi être anti-juif et puisse aussi s'opposer. Ils sont vraiment dans cette... Je ne parle pas des juifs américains de façon générale, mais de cette gauche juive, c'est l'idée, nous sommes tous des damnés de l'Occident, nous avons tous été des victimes, eux les musulmans par la colonisation, nous en Europe par la Shoah, nous sommes tous des victimes de l'Europe. Et à ce titre, nous avons une communauté de destin. Et un État d'Israël qui est de plus en plus à droite et qui apparaît comme hostile aux musulmans. Lorsque vous voyez, par exemple, j'étais très frappé de ça, vous voyez Mahmoud Khalil, qui a fait l'objet d'une plainte de la part d'habitants des kibbutz, qui a été emprisonné par l'administration Trump, puis qui a été libéré, puis qui ensuite avait expliqué qu'il ne pouvait pas condamner ce qui s'était passé le 7 octobre. Il a reçu un soutien massif de la gauche juive américaine, un soutien qui va de G Street jusqu'à Jewish Voice for Peace, énormément de jeunes se sont mobilisés pour lui. Oui. Et je suis très frappé l'image entre cette mobilisation qui a eu lieu aux États-Unis et de l'autre, je vois en Israël, un Mishai Shikli, ce ministre de la diaspora, qui invite en Israël, bon, des leaders d'extrême droite, mais qui invite Tommy Robinson, qui est leader anti-musulman. Et là, il y a une espèce d'incompréhension qui qui sur le terme, à long terme, ne pourra amener qu'à un divorce, un divorce presque existentiel.
C'est ça. Et donc, pour comprendre vraiment ce décalage entre ce qui se passe dans la pensée occidentale et ce qui se passe en Israël, lisez la question séfarade avec cette mémoire qui dérange. Merci beaucoup, Daniel Ben-Soustan-Bernstein.
Merci à vous.